Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième entretien des clés pour vivre avec le père Jean Harfeux, vicaire sur la paroisse du Christ-Roi pour le diocèse de Toulouse. Bonjour père Jean Harfeux.
Bonjour madame.
Alors au programme dans ces quelques minutes d'entretien, une grande question, la question de la grâce. Sainte Jeanne d'Arc répondait à l'un de ses procureurs lors de son jugement qui lui demandait si elle pensait ou non être en état de grâce. Elle répondit « Si je suis en état de grâce, que Dieu m'y fasse rester, sinon qu'il m'accorde d'y être. » Ça, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Quelle est un peu votre réponse sur cette question autour de la grâce ?
Alors, je suis bien heureux que vous citiez Sainte Jeanne d'Arc. Vous le faites d'ailleurs comme l'Église le fait elle-même pour cette question-là, précisément dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'il est toujours bon d'aller consulter quand on a des questions importantes relatives à notre foi. Et effectivement, le catéchisme conclut son petit développement sur cette question avec cette citation de Jeanne d'Arc à son procès. « Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. » C'est effectivement Jeanne d'Arc qui répond ça. Alors, on pourrait parler longuement de Jeanne d'Arc et de sa qualité et de sa lucidité et de sa grande intelligence. C'est vraiment l'intelligence des saints qui, alors même qu'ils sont sous pression, donnent des réponses lumineuses. Je conseille vos auditeurs à lire le procès de Jeanne d'Arc. Il y a énormément de choses et de réponses lumineuses quant à des petites questions qu'on pourrait se poser. On voit comment une jeune fille est par ailleurs pleine d'humour et remet ses juges, qui sont tous de grands théologiens dominicains et spécialistes de tel ou tel aspect du mystère de l'Église et qui sont de l'Université de Paris devant leurs propres contradictions. Alors, je réponds à votre question.
Alors, l'heure est grave. Comment savoir si on est en état de grâce ?
Alors, effectivement, comme Jeanne d'Arc le dit, on ne peut pas le savoir. Aussi, il faut peut-être un petit peu revenir d'abord sur ce qu'on appelle état de grâce, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais retenons simplement que si on prend les mots au pied de la lettre, l'état, c'est la situation concrète, et la grâce, c'est la vie de Dieu. Donc au fond, l'état de grâce, c'est la situation concrète qui est la mienne lorsque je suis entre les mains de Dieu, lorsque je suis, je disais hier, sous l'ombre du Saint-Esprit, lorsque je vis pleinement ma foi, mon espérance et ma charité. Je suis en état de grâce, c'est ça l'état de grâce. Mais la question qui est posée, ça n'est pas ce qu'est l'état de grâce, mais de savoir si je peux savoir si je suis en état de grâce.
Bravo.
Alors, là, il faut dire que d'abord, la grâce, c'est une réalité surnaturelle. Donc, on ne peut pas en avoir une expérience sensible. Ça n'est pas possible, puisque précisément, ça n'est pas sensible. Donc, on ne peut pas fonder notre connaissance de l'état de grâce sur nos sentiments, d'abord. Parce que c'est pas parce que j'éprouve telle ou telle chose de Dieu que je suis vraiment entre les mains de Dieu. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus se fonder sur les bonnes œuvres qui seraient les nôtres. Parce qu'on peut faire des choses très bien et par ailleurs être un parfait salopard, pardonnez-moi l'expression. Donc en fait, on ne peut pas fonder notre certitude sur une expérience sensible, sur une connaissance humaine. On la fonde donc évidemment sur une connaissance surnaturelle, c'est la foi. La foi ne peut pas nous faire dire avec certitude, comme le dit Jeanne d'Arc, que nous sommes en état de grâce, mais elle peut faire naître en nous l'espérance que nous le soyons au regard de la vie de Dieu, que nous constatons à l'œuvre dans notre propre vie ou dans la vie des saints, comme par exemple la vie de Jeanne d'Arc que l'Église nous propose précisément comme exemple de vie vécue sous la motion de l'Esprit-Saint.
Nous ne serons pas sauvés par nos propres œuvres, même les plus grandes œuvres possibles ou les plus beaux des charismes possibles.
Alors il faudrait distinguer déjà les charismes de nos œuvres. Le charisme, c'est un don que Dieu fait à un homme pour le service du bien commun.
Nombreux sont ceux qui se lèvent aujourd'hui dans l'Église avec des charismes. Alors comment discerner aussi
Le charisme, c'est cela. Ensuite, on est sauvé non pas par les charismes, mais par la grâce sanctifiante, c'est-à-dire par le fait que Dieu me fait agir et me fait faire le bien qui convient à ce que je suis au moment où je le fais. C'est ça la grâce sanctifiante. Au fond, c'est cette motion divine qui m'unit particulièrement à Dieu en munissant aux gens qui m'entourent.
Donc vous soulignez cette grâce surnaturelle au fond.
Voilà, exactement. Alors on est sauvé par Dieu. Mais si vous voulez, pour prendre une durée une chose toute simple, parfois on oppose, on se dit, mais alors si on est sauvé par Dieu, c'est pas moi qui me sauve. Ben non. Mais est-ce que les deux volontés seraient concurrentes? Non. En fait, on est sauvé quand on est sauvé. Et quand on pose un acte de charité, si vous voulez, qui est au fond l'acte de la grâce, eh bien c'est 100% l'homme et 100% Dieu. C'est comme si, en fait, nous étions là en pleine communion avec Dieu et nous agissons avec lui. En revanche, lorsqu'on se coupe de la grâce, là, c'est 100% l'homme et 0% Dieu. En fait, il ne s'agit pas d'opposer deux volontés, celle de Dieu et celle de l'homme. Il s'agit de voir comment celle de Dieu nous donne d'agir parfaitement librement et en suivant parfaitement, eh bien, je ne sais pas, l'émotion du Saint-Esprit, donc en posant des actes de véritable charité. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si, il me semble que...
Ouais. Oui, oui, vous y répondez. Vous parlez aussi, quand on se coupe de la grâce de Dieu, quelles sont les conséquences dans la vie d'un homme, d'une femme qui, au fil du temps, se coupe de cette grâce de Dieu? Quelles sont les conséquences? Perte de la joie, perte de l'obéissance, perte des vertus, peut-être?
Alors,
de patience, de force?
Revenons à ce que nous disions en introduction à propos de l'état de grâce. L'état de grâce, c'est celui qui vit sous la motion de l'Esprit Saint, celui qui vit pleinement de la grâce de Dieu. Eh bien, cet état de grâce, il peut être perdu. Il est perdu parce que l'Église appelle, et vous pouvez vous reporter au catéchisme, le péché mortel, qui nous coupe de la grâce. Et si on est coupé de la grâce, ça veut dire qu'en fait, on est coupé de la charité. Et donc, je dirais principalement des fruits de la charité. Et vous le savez bien sûr, hein, les deux fruits principaux de la charité, c'est la joie et la paix. En fait, quand on est coupé de la vie de la grâce, on est coupé de la joie qui vient de Dieu, on est coupé de cette paix dans laquelle Dieu veut nous établir en nous réconciliant.
On coupe la communion avec Dieu.
On coupe la communion avec Dieu, donc on coupe la charité, et donc on coupe les conséquences qu'implique cette communion, les fruits de la communion, si vous voulez, principalement la joie et la paix. Pour dire un mot sur la joie, par exemple, il reste encore peut-être quelques secondes.
C'est encore bon.
Pour
c'est
dire un mot
bon.
Sur la joie, vous vous souvenez que le pape François nous a donné une exhortation apostolique, la joie de l'évangile. Et peut-être vous vous souvenez du premier verset, du premier paragraphe plutôt, de cette exhortation qui commençait ainsi. La joie de l'évangile habite le cœur de celui qui a rencontré le Christ. Et il poursuit un petit peu plus loin. C'est de cette joie et de son rayonnement que naîtra l'évangélisation, puisqu'elle vient précisément de la charité offerte à tous les hommes. Donc autrement dit, vraiment la tristesse parfois est le signe que peut-être il convient de revenir, non pas vers le prêtre, mais vers le Christ et son intermédiaire, le prêtre donc, qui nous communique sa grâce dans le sacrement de réconciliation, qui nous rétablit dans la joie et dans la paix du Christ, ce que dit le prêtre souvent d'ailleurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.
Tout à fait, oui. Alors c'est des points importants au fond, hein, dans cet entretien du jour, à quelques jours tout juste de cette grande fête aussi de Pentecôte. Perte de la joie, c'est peut-être l'un des premiers signaux d'alarme dans mon chemin personnel avec Dieu, Père Jean Harfeu. Je suis triste, cette tristesse s'approfondit. Je me suis peut-être au quotidien, dans la vie de tous les jours, écartée de cet état de grâce. J'ai manqué de charité, j'ai perdu de vue ce qu'était l'obéissance dans ma vie de chrétien et dans cette vie au quotidien.
C'est sans doute un signe, mais je crois qu'il faudrait préciser, peut-être nous manquons un petit peu de temps maintenant, peut-être on précisera ça demain si vous le voulez bien, distinguer quand même entre les tristesses et entre les joies, parce que il y a certaines tristesses qui ne viennent pas de Dieu. Et certaines tristesses qui sont la conséquence de cette perte de la joie dont je parlais à propos de la charité. Mais il y a des tristesses qui viennent de l'adversaire et qui, en vérité, ne sont pas bonnes et n'indiquent pas que nous ne soyons pas dans la vérité et dans la communion.
Donc apprendre le discernement peut-être.
Exactement.
Dans ce chemin aussi spirituel.
Et peut-être
spirituel.
Du coup interroger non pas un pauvre prêtre diocésain, mais un jésuite dont c'est la spécialité de discerner les esprits et de discerner ce qui fait dans ma vie... une joie qui vient de Dieu, une tristesse qui vient de Dieu et une tristesse qui viendrait de l'adversaire. Enfin, vous voyez, donc le discernement des esprits qui n'est pas tout à fait...
Vous-même, vicaire sur une paroisse, aujourd'hui, vous renvoyez certains de vos paroissiens sur ces personnes spécialisées, jésuites,
Cette question ou autre. Non, ce que je voulais dire, c'était un petit peu une boutade, mais c'est la question, j'aime bien. C'est la question de l'accompagnement spirituel, plutôt. Et donc, dans l'accompagnement spirituel, il convient de discerner, effectivement, parce qu'il ne faut pas dire la joie, c'est Dieu, et la tristesse, c'est l'adversaire.
Et là, vous nommez quelque chose qui est important. Voilà. Il ne faut pas rester seul. Et cette grande question aussi du salut de l'âme est importante, car c'est le parcours, ce pèlerinage ici-bas. Donc, apprendre peut-être à être conduit par les bonnes personnes et les bons accompagnateurs. En deux mots, un bon accompagnateur, deux clés pour peut-être choisir un accompagnateur spirituel important dans un chemin de foi.
C'est extrêmement important, et en vous écoutant, me revenait à l'esprit ces vers de la pièce Cyrano de Bergerac que tout le monde connaît, et la fameuse tirade des non-merci qui se conclut, vous vous en souvenez peut-être, de cette manière: dédaigner le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et je crois que dans ce tout seul, il y a comme une illusion et un mensonge de notre monde contemporain qui nous laisse entendre que nous pourrions aller à Dieu tout seul. Ça n'est pas possible, parce que d'abord c'est Dieu qui donne d'aller à Dieu, et Dieu donne d'aller à Dieu par d'autres. On pourrait dire en un mot, en fait, que évidemment le chemin, nous le connaissons, c'est le Christ. Mais il y a des sentiers pour aller sur le chemin, et ces sentiers, eh bien, ce sont les prochains.
C'est le mot de fin, c'est une bonne conclusion. Donc ne pas rester seul. Rester seul aujourd'hui dans l'Église, c'est se mettre quelque peu en danger. Père Jean Harfeux, l'intervenant cette semaine pour se préparer aussi à cette belle fête de Pentecôte qui arrive 50 jours après la fête de Pâques. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, et merci.